voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue à vous, les voisins, les voisines. Comme chaque lundi, nous vous proposons notre portrait, l'Afrique qui gagne, un gros plan sur celles et ceux, personnalités anonymes, qui font l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, nous découvrons le parcours de Godlieve Mukazarazi. Elle est fondatrice de l'ONG Sevota au Rwanda. C'est une séquence que je vous invite à ne pas manquer. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'heure, nous ouvrons notre discussion du jour. Nous nous intéressons ce matin aux répercussions parfois sous-estimées que peuvent avoir les écrans dans la vie de nos tout petits. Dans sa chanson intitulée « Mon précieux », Soprano, artiste marseillais, aux origines comoriennes, chante. « Je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu as pris mes yeux dans tes applis. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard pixelisé m'a envoûtée. Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux smartphone. » C'est ce dont il s'agit. Ce texte pointe du doigt l'addiction, la désocialisation engendrée par la surconsommation d'écran, le jeu vidéo Fortnite, ou plutôt le phénomène Fortnite, 200 millions de joueurs à travers le monde, illustre parfaitement l'emprisonnement de nos adolescents dans ces mondes virtuels. Ces derniers jours, une nouvelle étude menée par des chercheurs à Singapour sur un groupe d'enfants âgés de 2 à 5 ans assure qu'une exposition prolongée aux écrans provoquerait un manque de mobilité chez les enfants. En compagnie de nos invités, nous tenterons de répondre à ces questions. Comment préserver nos petits, nos jeunes des effets possibles, disent certains, avérés, disent d'autres, de cette révolution numérique? Comment les accompagner vers un quotidien moins connecté?
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Maryse Chrétien, bonjour, vous êtes enseignante, je vous laisse répondre peut-être, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, présidente nationale de l'Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles Publiques. Nous avons également avec nous Jacques Brodeur, bonjour, bienvenue parmi nous dans 7 milliards de voisins.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur d'éducation physique au collège, vous êtes créateur du défi 10 jours sans écran au Québec, on va en parler. Un défi qui a fait des émules au Québec mais aussi en France dans les écoles avec plus de 10 000 ados concernés et engagés, lancés dans ce défi. Nous avons également avec nous Michel Desmurgeais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences à l'INSERM, auteur de La fabrique du crétin digital aux éditions du Seuil. Et vous êtes en duplex avec nous à Lyon grâce aux moyens techniques des studios de Radio France. Bienvenue parmi nous. Michel Desmurgeais, la première question, elle est pour vous. Avec ce livre, ce titre, La fabrique du crétin digital, ce titre est-il à dessein un brin provocateur pour déclencher une réaction urgente chez les uns, chez les autres, ou traduit-il finalement le fond de votre pensée, Michel Desmurgeais?
Pour vous répondre honnêtement, j'ai envie de vous dire les deux. Parce qu'on est arrivé à un moment où vous avez dit que les effets pouvaient être soit possibles pour certains, soit avérés. Il n'y a absolument aucun doute, notamment pour les tout-petits, sur le fait que voilà, ces effets négatifs et les effets délétères des usages des écrans soient avérés, absolument avérés et indiscutables scientifiquement. Alors évidemment, on a parlé du réchauffement tout à l'heure pendant les informations. Il y a eu la même évolution pour tous les grands problèmes de santé publique. Voilà, réchauffement climatique, le sucre, l'amiante, le tabac, etc. On commence par nier, puis quand on ne peut plus nier, on nous dit que c'est possible, et puis après nous avoir dit que c'était possible, on nous dit que ce n'est pas grand-chose, et puis après finalement, quand ça devient impossible, parce que les effets sur des écrans, notamment sur les tout-petits, commencent à se voir, les choses se mettent en place. Donc voilà, pour le titre, c'était un peu pour secouer le cocotier, parce qu'il y a un peu besoin, je crois, d'une prise de conscience à ce niveau-là. Et puis il y a le fait que alors ça veut pas dire que tous les enfants sont des crétins évidemment, mais ça veut dire qu'on enlève aux enfants avec ces écrans une grande partie de ce qui va structurer leur pensée. On touche à travers tout un tas de facteurs, parce que non seulement les effets sont mis en évidence, mais on comprend aussi les causalités. On va toucher au langage à travers les interactions intrafamiliales, on va toucher à l'attention et à la concentration, on va toucher aux régulations émotionnelles, aux capacités sociales, et on va toucher en gros à tout ce qui fait vraiment le cœur de l'humanité de nos enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on nous dit toujours il faut vivre avec son temps, Le problème, c'est que le cerveau de nos enfants, il est comme le nôtre, c'est un vieux cerveau et il n'a pas été façonné, il n'a pas été fabriqué pour ce temps. Et cet environnement numérique, pour lui, c'est un environnement difficile. Alors certes, il s'adapte, mais ce n'est pas parce qu'il s'adapte qu'il se construit aussi bien qu'il devrait se construire dans l'environnement pour lequel il a été fabriqué. Et un bon exemple, c'est l'altitude. Si vous montez à 6000 mètres, je vais m'adapter, je vais fonctionner, mais je ne vais pas fonctionner aussi bien qu'à 200 mètres. Bah, pour les écrans, c'est un peu pareil.
Je voudrais poser la question à nos deux autres invités, Marise Chrétien, Jacques Brodeur. Sommes-nous en train de compromettre le potentiel de développement de nos enfants sans même le savoir, Marise Chrétien?
Alors, sans le savoir, très certainement, même si en échangeant tout à l'heure avec Jacques Brodeur, on se disait qu'il y a de multiples et de nombreuses recherches et de littérature scientifique. Donc, je vous remercie, Monsieur Desmurget, de mettre effectivement à jour et d'écrire ces plus de 1500 recherches. En fait, nous, ensuite, sur le terrain, quand on est enseignant, comment est-ce qu'on fait avec toute cette littérature scientifique? C'est-à-dire que nous, sur le terrain, nous accueillons des enfants, donc à partir de 3 ans, en tout cas pour ma part, et nous devons faire avec. Vous disiez, effectivement, ce cerveau est un vieux cerveau. Je pense que les enfants qui arrivent à l'école maternelle ont déjà des heures passées devant les écrans. Et nous, justement, c'est notre devoir en tant qu'enseignant d'accompagner les familles, d'accompagner les parents pour leur dire, alors surtout pas les culpabiliser, j'aimerais qu'on soit d'accord tous les trois sur le fait de ne pas culpabiliser les familles, mais en tout cas de les accompagner au mieux dans le développement de leurs enfants.
Jacques Brodeur, vous tenez à réagir à ce qui vient de se dire?
Oui, Jacques Brodeur, il utilise toutes les données que Michel Desmurget publie dans ses deux livres, l'autre avant et celui-ci. Il utilise les données et il les mâchouille et les prépare afin qu'elles soient comestibles par des enfants et des adolescents. On ne peut pas faire lire Michel Desmurget en direct par des enfants de maternelle, mais on peut montrer à des enfants de maternelle que l'animal qui est dans la maison chez eux, qui s'appelle écran, il est plus gourmand qu'un lion, qu'un crocodile et qu'un boa.
L'animal.
Et si tu ne domptes pas l'animal, l'animal ne te mangera pas au complet. Il ne mange pas tes bras, il mange ton attention. C'est un animal chronophage. Il faut donc rendre l'enfant capable de maîtriser l'écran et de lui dire « tu te tais, tu fais des dos la petite télé ».
Les voisins et les voisines, prenez part à cette discussion. Combien de temps vos enfants regardent-ils la télévision? Passent-ils devant la tablette? Contrôlez-vous leur exposition à ces écrans? Sont-ils interdits chez vous? Vous-même, êtes-vous accro à votre portable? Ça, c'est une bonne question. Le comportement des adultes aussi, le miroir. Que pensez-vous des mises en garde formulées par les professionnels de la petite enfance? Enfants, écrans, nous en parlons. Le 33 1 84 22 71 71. Il y a aussi vos messages qui arrivent via Facebook avec Brahima à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Je suis persuadée que l'écran n'a pas qu'un impact négatif sur l'évolution intellectuelle de nos enfants. J'en veux pour preuve que pas mal d'émissions éducatives destinées les aident à améliorer leur expression verbale. La vraie question est comment trouver le juste milieu entre ce qui éduque l'enfant et ce qui le distrait. Jacques Brodeur.
Je signale à tous les auditeurs et toutes les éditrices que dans le dictionnaire Larousse, la première définition du mot écran, c'est ce qui empêche de voir. Et qu'est-ce que les enfants ne voient plus avec un téléphone à la maison, dans les mains de son papa, de sa maman ou dans ses propres mains? Ils ne voient plus son papa et sa maman. Et c'est un obstacle à la communication. On s'imagine, nous, que c'est merveilleux, il glisse son doigt sur l'écran et il va faire apparaître des logos et des petits dessins. Il va même peut-être apprendre l'espagnol ou l'anglais avec la tablette. Non! Votre enfant, il a besoin de parler avec vous. Vous ne connaissez pas l'anglais, papa et maman, mais apprenez quelques mots et montrez-les à votre enfant. Votre enfant, il a besoin de votre regard, pas de regarder vos yeux, regarder un écran. Il a besoin de vous, votre enfant.
Un autre message de Thieu Alomé. Chez moi, mes enfants commencent à regarder les écrans à partir de l'âge de 10 ans. C'est utile pour les recherches, pour les devoirs et pour l'école. Est-ce un âge qui vous semble raisonnable et
Alors, oui, si on écoute Serge Tisseron et si on écoute aussi Michel Desmurger, effectivement, il y a certainement un âge raisonnable, et 3, 6, 9, 10 ans. Mais je voudrais revenir sur ce qui était dit avant, parce que ce qui est important, c'est peut-être pas l'âge raisonnable. Ce qui est important, c'est le contenu. La précédente auditrice a raison. Il y a des contenus quand même qui sont à éviter et à plébisciter. Et puis, quand un enfant est devant sa tablette, je crois qu'on peut apprendre l'anglais quand même, Jacques, à côté de son papa ou de sa maman et de la tablette, parce que le parent va être là en interaction langagière avec l'enfant. Le parent va être là pour lui dire comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as compris. C'est ça qui est important. On ne laisse pas un enfant avant 6 ans tout seul devant la tablette ou devant la télévision. On a besoin de l'accompagner, on a besoin de mettre en mots et on a besoin de lui faire parler sur ce ressenti et les émotions.
Il y a ce message de Anna qui est à Dakar au Sénégal. Avec mon fils qui a 6 ans maintenant, on a eu une histoire avec les écrans. Entre 1 et 2 ans, il regardait des comptines sur une tablette jusqu'au petit matin, certaines nuits. Il faisait des insomnies, était agité et la tablette m'aidait à le canaliser. À 2 ans et demi, il ne prononçait plus un mot. On a fini chez le pédopsychiatre et l'orthophoniste qui a demandé de supprimer complètement la tablette. Il va beaucoup mieux. Mais à Noël, ma sœur lui a offert une tablette. Et après quelques semaines d'utilisation, il a fait une crise de nerfs quand on lui a demandé de l'arranger pour se coucher. Depuis, plus de tablettes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de se dire à travers le parcours de ce petit enfant.
Oui, et ce que ça nous enseigne, et je le dis pour Madame Chrétien, oui, il y a des petites parcelles d'avantages à apprendre l'anglais avec une tablette, mais il y a une des inconvénients qui vont avec. Et les inconvénients, ils ne sont pas écrits sur l'appareil. Quand vous achetez du lait ou vous achetez un aliment, il y a quelqu'un qui vous dit ce que ça contient. Ils ne vous disent pas tout de suite que ça va vous empoiser et qu'il y a des insecticides qui ont servi à faire pousser l'aliment. Mais ces effets collatéraux de l'exposition d'un cerveau d'enfant, on pense que c'est ses yeux qui sont absorbés par l'écran. Non, non, c'est son cerveau qui est accaparé. Ce sont des professionnels qui savent quelle couleur mettre, quel temps laisser l'image à l'écran pour que l'enfant reste accroché. Ce sont des spécialistes en captologie. Alors, captologie. Oui, moi, je veux bien que votre enfant, il apprenne anglais, accompagné avec son papa et sa maman, mais quand tu dis qu'il n'est même pas capable d'apprendre sa propre langue maternelle et qu'il ne parle plus du tout, il n'est même plus capable de vous regarder dans les yeux, bien, c'est une catastrophe. Alors, moi, je ne veux pas les diaboliser, mais je dis, c'est des outils qui doivent obéir. Et en ce moment, cet outil, il est conçu pour capter votre attention et que vous soyez plus capable de lui échapper.
Michel Desmurger a une réaction à ces messages d'auditeurs?
Diantre, oui. Comment dire, les programmes éducatifs pour les enfants sont un mythe. Vraiment, on n'apprend pas l'anglais avec des écrans. Le cerveau des enfants, il est façonné pour traiter, pour apprendre à partir de l'humain. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si vous mettez un enfant devant un programme éducatif, il apprendra plus que si vous le mettez dans un placard. Il n'y a pas de problème. Cela étant dit, si vous le mettez avec un humain, il apprendra toujours beaucoup plus qu'avec un programme éducatif. Et les enfants qui sont exposés à ces programmes éducatifs, alors évidemment, le gamin, il va regarder Dora, à un moment, il va venir, il va se mettre à crier Yellow, et ses parents vont dire, t'as vu, il a appris l'anglais avec Dora. Toutes les études montrent qu'effectivement, il peut apprendre quelques mots. Il va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mots qu'il ne va en apprendre dans l'interaction verbale avec un humain, par exemple. Un gamin, on parle des jeunes enfants, si vous lui montrez une table et que vous lui dites table, au bout d'une ou deux fois, il va comprendre ce que c'est qu'une table. Et puis il va avoir une table un peu différente à côté, et puis il va généraliser ça, il aura compris le mot table. Avec ces programmes soi-disant éducatifs, encore une fois, plus les enfants les consomment, plus ils ont de retard de langage et plus ils ont de chances d'aller chez l'orthophoniste quand ils seront plus grands. Il va falloir 10, 20, 50 expositions dans certaines études pour qu'ils retiennent le mot table. Par ailleurs, ce qui fait la difficulté d'une langue, c'est pas tellement le lexique. Je veux dire, moi je suis arrivé très tard aux États-Unis, j'étais adulte, j'ai acquis un lexique qui est un lexique... Voilà, qui est le lexique d'un Américain moyen. Ce qui fait le cœur d'une langue, c'est aussi sa grammaire, c'est aussi sa syntaxe. Et il n'y a aucune étude, aucune, absolument aucune, qui montre que les écrans puissent favoriser ça. Au contraire. Et quand on dit qu'il faut partager les écrans avec les enfants, il vaut mieux les partager que de les laisser tout seuls devant. Effectivement, les études montrent que le temps partagé avec les enfants, à 90 ou 95%, il est silencieux. Et d'autres études montrent que si, par exemple, vous voulez leur enseigner l'anglais, effectivement, si vous partagez un programme d'anglais avec lui, il va apprendre quelques mots d'anglais. Mais ce que montrent aussi ces travaux, c'est que l'écran fait vraiment interférence et que si vous êtes tout seul, vous, à lui apprendre l'anglais sans la médiation de l'écran, l'apprentissage se passera mieux. Alors oui, je veux dire, si l'enfant, il n'a aucune source éducative notable, il vaut mieux lui donner un écran que rien. Mais s'il a un adulte, l'écran fait toujours interférence. Et juste pour les programmes éducatifs, et j'en aurais fini une petite anecdote, il y avait un truc qui s'appelait Baby Einstein qui était censé développer le langage, développer tout un tas de capacités, qui a été racheté par Disney. Et puis les parents, au bout d'un moment, aux États-Unis, ont bien vu que ça s'entrechoquait un peu avec le résultat des études scientifiques. Mm-hmm. Et ils ont dit à Disney, maintenant tu sors ton carnet de chèques ou on va en procès. Et Disney a sorti le carnet de chèques et il a enlevé absolument toutes les remarques et toutes les assertions éducatives de la jaquette de ces produits-là, sachant très bien que ces produits n'ont aucune vertu éducative. En tout cas, si elles en ont, c'est infiniment moins que l'être humain, en tout cas pour les programmes, pour les enfants de 0 à 6 ans. Et quant à savoir si les enfants, tout à l'heure, on nous parlait d'un pas d'écran avant 3 ans, mmh. en disant que j'y souscris pas du tout, parce que quand on regarde la raison pour laquelle c'est 3 ans, il n'y a aucune raison physiologique. La seule raison pour laquelle c'est 3 ans, à mon sens, c'est que c'est l'âge auquel ils deviennent, c'est parti avec la télé, c'est l'âge auquel ils deviennent intéressants pour les annonceurs en termes de publicité, en termes de demande. Donc c'est facile de dire pas avant 3 ans parce que ça coûte rien, mais en fait, quand on dit pas avant 3 ans, ce qu'on dit vraiment, c'est après, vous pouvez y aller, et les parents y vont. Et quand on regarde les dernières études, alors moi je considère qu'avant 6 ans, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun bénéfice à leur donner. Il ne faut pas diaboliser les écrans, il y a évidemment des usages extrêmement positifs du numérique. Personne ne nie ça. Avant 6 ans, il n'y en a pas ou il y en a très peu. En tout cas, ça se fait au détriment des interactions humaines. L'OMS nous a dit il n'y a pas longtemps, et l'Académie américaine de pédiatrie nous ont dit que jusqu'à 2 ans, évidemment, c'est zéro. Ça, personne ne le discute. Après, c'est une heure maximum par jour, d'après eux. Cela étant dit, ils rajoutent tous les deux, moins c'est mieux.
Oui, moi
donc
c'est
peut-être
mieux.
Que, oui, c'est diplomatique. Alors,
Michel
évidemment,
Desmurs,
l'idéal,
je
c'est moins
vous
possible. Je finis juste une seconde, mais l'idéal, c'est le moins possible. L'idéal, c'est zéro, mais le mieux, c'est le moins pour ces enfants-là, parce que c'est vraiment une période de plasticité phénoménale pour le développement de l'enfant. Et les écrans interfèrent avec cette plasticité et le développement, tout un tas de fonctions fondamentales à des périodes critiques du développement. Pardon, j'ai fini.
C'était très intéressant. Je voudrais laisser une chance à nos auditeurs de réagir aussi à ce que vous, nos invités, êtes en train de dire. Nous accueillons avec nous Leïsa à Lomé. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. Bienvenue au cœur de cette discussion autour des écrans qui envahissent la vie de nos enfants. On vous écoute, Leïsa.
Oui, bonjour. Alors, moi, je suis maman de 3 enfants, des jumeaux de 5 ans et un petit de 1 an et demi. Et en fait, quand les jumeaux sont nés, on avait la télé. Et puis, on s'est rendu compte que vraiment, tout le monde regardait n'importe quoi. Et donc, on a carrément enlevé la télé. Donc, il n'y a plus de télé à la maison depuis. Et on a des smartphones, on a des tablettes, mais ça appartient aux parents. Et les enfants n'ont pas accès. Sauf quand, voilà, éventuellement, on veut leur montrer un petit dessin animé, un petit reportage, quelque chose de simple. Ça arrive peut-être une fois chaque 2 semaines. Sinon, ils sont libres de lire, de jouer, de se développer loin des écrans.
Ils ont 5 ans aujourd'hui, vos jumeaux. C'est bien ça?
Oui, ils ont 5 ans. Voilà.
Bravo, chère maman.
Il y a un accompagnement. Oui. Là, on entend l'accompagnement. On voit qu'il y a un certain discernement et que cette maman, Leïsa, vous êtes assez précautionneuse. Vous faites attention à ce que vos enfants regardent et surtout le temps aussi passé devant ces écrans.
Et justement, enfin, moi, je peux rajouter quelque chose. Vous parlez bien d'un outil, madame, il me semble, et les écrans sont un outil. Et je voudrais répondre à monsieur Desmurger tout à l'heure par rapport aux usages du numérique. Comme c'est un outil, les écrans, nous, les enseignants en classe, et je suis enseignante voilà, dans une classe de petite section, monsieur Desmurger, j'utilise des écrans avec un usage raisonné, raisonnable, parce que justement, il y a un accompagnement qui se fait. Et pour répondre aussi à cette dame, parce que nous, à l'école, je le disais à Jacques tout à l'heure, ce qui est important, c'est de didactiser ce que l'on fait avec les écrans. C'est quoi la plus-value d'un écran à un moment donné? S'il vaut mieux utiliser le livre, on utilise le livre. Les écrans, ce sont des outils que nous pouvons utiliser à l'école, mais comme nous allons faire des activités physiques, comme nous utilisons les puzzles, comme nous utilisons la pâte à modeler, voilà. Je crois qu'il faut faire confiance aussi aux enseignants qui sont dans les classes. Et nous, en tout cas, au sein de l'association, nous avons envie d'accompagner les parents et nous avons un guide des parents qui permet aux familles de mieux comprendre les besoins physiologiques, tous les développements qui sont très très importants à l'école et à la maison.
Jacques Brodeur.
Je signale à Madame Chrétien que tous les parents qu'on veut aider, le premier service qu'ils attendent de nous, enseignants, enseignantes, majoritairement des femmes, c'est qu'on leur explique quel est l'effet pervers de l'exposition aux écrans. Même dans une classe où une enseignante l'utilise, si on n'a pas formé cette enseignante à comprendre qu'il y a un effet caché, qui est invisible, qui rend l'attention du cerveau captive, l'attention, alors l'enseignante utilise un outil qui est plus puissant qu'elle. Moi, je ne veux pas que les enseignantes s'habituent faire remplacer par l'écran. Parce qu'avec l'intelligence émotionnelle, Madame Chrétien, je vous annonce tout de suite que des professeurs, on n'en aura plus besoin. On va les remplacer.
Et
la technologie deviendra un supplétif pour remplacer les écrans. Parce que ça coûte trop cher des enseignants.
Nous sommes avec notre auditrice. Lisa, je voulais vous poser cette question aussi. Est-ce que vous-même, vous faites attention à votre propre usage des écrans devant vos enfants? Lisa? D'accord. Bon. On continue, on poursuit avec cette discussion. Je voudrais qu'on parle des risques, on les a abordés déjà, mais est-ce qu'il y a un consensus, quelque part, autour des risques encourus par nos enfants face à ces écrans? Puisque les avis divergent, certains finalement modèrent leurs propos, les nuances, d'autres sont plutôt radicaux. Est-ce qu'il y a un consensus au moins sur un fait établi, avéré?
Le consensus, il n'est jamais unanime. Il y a toujours des personnes qui sont ou bien mordues de l'utilisation des écrans qui essayent d'atténuer la gravité des dommages. Et il y a d'autres industries, des professionnels de l'industrie, qui nient complètement les dommages. L'exemple le plus flagrant, je n'en imagine pas un plus flagrant, c'est lorsque la télévision est arrivée au Canada. Il y avait des endroits au Canada où la vallée est très profonde. Les émissions de télévision, les ondes n'arrivaient pas jusqu'au fond de la vallée. Mais les écoles qui étaient plus proches du sommet, du plateau, elles recevaient les émissions. Comment m'expliquez-vous que l'arrivée de la télévision au Canada, dans ces deux villages, on les a observés, que la violence dans les cours de récré, dans les cours où l'école est située plus proche du sommet, où les ondes de la télévision arrivent, comment peut-on expliquer que le comportement des enfants soit devenu plus agressif, plus violent? Moi, je ne le comprends toujours pas. Je croyais au début que c'était simplement l'exemple des personnages et que les émissions pacifiques ne causaient pas ce dommage-là. Non, il y a quelque chose dans la communication humaine qui est bloqué par l'intervention de ce personnage technologique passionnant, au pouvoir de séduction plus puissant que ton papa et ta maman. Les enfants, autrefois, se bagarraient pour savoir qui avait le papa le plus fort. C'est fini. Spider-Man, il est plus fort que ton papa et que mon papa. Donc, le héros, il vient de tout petit écran.
Je dis,
en ce moment, les écrans, ils sont tout mignons. Ils ont l'apparence mignonne, mais c'est pour mieux se trouver une niche dans le cœur de nos enfants et des parents qui vont finalement les laisser passer.
Vous parlez de niche tout à l'heure, vous parliez d'un animal, effectivement, donc on reste dans ce champ lexical. Maryse Chrétien, vous êtes enseignante, est-ce que vous arrivez à repérer les enfants, les élèves en difficulté d'apprentissage, peut-être à cause d'une éventuelle surconsommation d'écran? Et comment est-ce que vous les accompagnez?
Alors, repérer les enfants qui ont qui sont en difficulté, oui, langagières, où on a des troubles du sommeil, des troubles en motricité, oui, dus aux écrans, non, parce que je serais qui pour dire ça? Voilà, je ne suis pas médecin et en tout cas, les recherches ne me permettent pas et ni le ministère de l'Éducation nationale ne nous donne ces informations-là. Par contre, le consensus, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés sur les interactions langagières. Ça, on est bien d'accord qu'on ne laisse pas un enfant tout seul, qu'on l'accompagne. C'est vraiment très important. Ensuite, l'autre consensus, mais laissons les enfants s'ennuyer. Laissons les enfants faire des activités physiques. Ça, c'est très important. En fait, quand un enfant est seul, dans un coin, on se dit, il s'ennuie, qu'est-ce que je vais lui proposer?
Laissons-les aussi connaître la frustration.
Tout à fait. Alors, la frustration, c'est très important, surtout à cet âge-là. Et je crois que les parents se laissent peut-être avoir avec cet outil. Les parents mettent dans l'emploi du temps de la semaine 30 minutes pour aller faire de la musique, 30 minutes pour aller au bébé nageur. Moi, je crois que les parents sont en capacité de dire, on met 10 minutes par jour un écran ou 30 minutes dans la semaine, tu pourras jouer à cette tablette-là ou avec la tablette parce que ça va t'apporter quelque chose en plus.
Jacques Brodeur,
il faut aimer nos enfants plus que les écrans. Et en ce moment, si on filmait dans un restaurant où il y a beaucoup d'enfants, j'ai déjà été passé 3 semaines, moi, dans un restaurant où il y avait un restaurant conçu pour attirer les enfants. Si vous aviez vu les choses qui m'ont fait pleurer, j'ai vu une petite fille célébrer son anniversaire. Son papa est allé aller chercher la nourriture qu'elle avait choisie. Il est apporté. Il a déposé ça devant elle. Elle a mangé tout seul. J'ai aucun mot de conversation, sauf « qu'est-ce que tu voudrais avoir pour dessert ?» C'est dramatique.
Les écrans
nous détournent.
C'est
des enfants mis au monde par des gens qui les abandonnent parce que le papa était occupé, bien sûr, sur son téléphone. Moi, je ne veux pas lancer de blâme aux parents, mais je lui dis « ton enfant, c'est la merveille du monde. »
Vous ne lancez pas de blâme, mais on entend la force des mots que vous utilisez, hein. Un parent qui abandonne son enfant, qui livre son enfant seul là, comme ça, devant son plat, et le jour de son anniversaire. On va poursuivre avec un message audio de Maman Nissoufou, au Niger.
Bonjour les voisins. Je suis Maman Nissoufou, inspecteur pédagogique en République du Niger. Personnellement, j'ai des enfants qui sont très accrochés à l'écran. Et c'est vraiment un calvaire, parce qu'ils veulent s'approprier de l'ordinateur, par exemple, ou bien de nos téléphones lorsque nous travaillons en famille. La question est la suivante. Lorsque les études imputent la responsabilité des difficultés d'apprentissage ou bien des troubles de langage à l'écran, à quel niveau se situe le problème? Est-ce que c'est l'attention des enfants qui est dérangée dans leur rapport à l'écran ou la mémoire ou bien leur capacité d'abstraction?
Jacques Broda.
Michel Desmurgeon, c'est le meilleur homme pour répondre à ça. Mais je dis les trois sont affectés.
Michel Desmurgeon.
Oui, les trois, absolument. Juste par parenthèse, j'entends effectivement qu'il y aurait des bénéfices à les utiliser à l'école maternelle. J'ai vraiment épluché la littérature, je suis un grand obsessionnel et j'entends souvent ça, mais j'ai trouvé plein d'études qui montraient des effets négatifs. J'ai trouvé plein de raisons économiques de pourquoi mettre les écrans et remplacer des profs qui coûtent cher. J'ai trouvé aucune étude, absolument aucune étude, et je suis de bonne foi, montrant qu'il pourrait y avoir une plus-value pédagogique.
Jean Heut.
Évidemment, sauf si on le compare à un placard, mais si on le compare à un humain. Maintenant, pour répondre à la question, ça touche à la concentration, parce que on l'a dit au début, le cerveau des enfants, il est vieux. Et ce cerveau, il n'est pas fait pour subir un bombardement sensoriel tel qu'il le subit avec les écrans. On le sait, il y a des vieilles études qui ont été faites dans les crèches qui montraient que les enfants se développaient mal, et ça a été associé au fait qu'il y avait beaucoup de bruit, qu'il y avait beaucoup d'animation sensorielle, et que ça déstructurait le fonctionnement, et ça rendait difficile la structuration de l'attention notamment. Ça a été reproduit ces dernières années sur des animaux, notamment des rongeurs. C'est-à-dire que si vous élevez des petits rats avec Bob l'éponge, ou alors si vous changez souvent pendant une heure par jour, par exemple, vous leur faites sentir une odeur, puis le groupe d'à côté, toutes les 5 minutes, vous changez d'odeur. Donc si vraiment vous les stimulez de façon importante sensoriellement, vous avez des animaux qui ont des troubles de l'attention, qui ont des troubles de l'hyperactivité, qui ont des troubles de la mémorisation, de l'apprentissage, qu'on retrouve effectivement dans tout un tas d'études chez des enfants de tous âges, liés à l'utilisation de la télévision, des jeux vidéo, sur la concentration, etc., sur le smartphone, etc. Pour la mémorisation, c'est pareil, il y a des choses assez fines. Si je peux me permettre juste 30 secondes, un exemple. Vous prenez des enfants, vous leur faites apprendre une leçon. Et puis après, vous les envoyez, une heure après, vous les envoyez à jouer à un jeu vidéo qui est une course de voiture. C'est des enfants de primaire. Ils jouent à cette course de voiture, puis 2 heures après, vous les envoyez au lit. Et le lendemain matin, vous regardez ce qu'ils ont retenu de leur leçon. Ceux qui ont joué à un jeu vidéo, ils ont oublié à peu près la moitié de la leçon. Ceux qui n'ont pas joué, qui ont fait d'autres activités, celles qui voulaient des activités contrôle, ils en ont retenu un peu plus de 80%. Simplement parce que l'activité, le sommeil de ces enfants et l'activité d'encodage ont été enregistrés. Le sommeil est perturbé par ces activités extrêmement excitantes. Et les parents ne s'en rendent pas forcément compte. Mais entre un gamin qui va retenir 50 et 80% de sa leçon de jour en jour sur des semaines et des mois, vous voyez, ça finit par faire une différence qui est une différence notable. Donc tout, vraiment, encore une fois, quand on dit que tout est touché, je ne sais pas si les auditeurs ou si les autres gens, Jacques et Marie, ils ont lu les bouquins de Bibliothèque Rose, de Club des Cinq quand ils étaient petits, mais on est arrivé à un tel niveau de déchéance langagière, si vous me passez ce terme, que ces bouquins ont été réécrits, le Club des Cinq a été réécrit, a perdu 40% de son vocabulaire, mais pas des mots monstrueux, on perd des mots comme baptiste, comme pinot, comme des mots qui sont quand même des mots du langage commun. Il y a plein d'exemples qui montrent que le langage est affecté, que la concentration est affectée. Même Microsoft vous explique qu'il va falloir réduire la longueur des pubs parce que le niveau attentionnel de ces générations est tellement déstructuré que si vous faites des pubs de plus de 8 à 10 secondes, vous les avez perdus, et qu'il va falloir des pubs hyper trash parce qu'ils sont à un tel niveau de stimulation sensorielle qu'ils ne s'en sortent plus. Voilà, moi je rencontre des enseignants, alors peut-être je ne les rencontre pas tous et je ne sais pas dans quelle mesure ils sont représentatifs, mais ils sont quand même assez unanimes. à me décrire des enfants qui ont des difficultés de langage, surtout les enseignants qui sont là depuis nombreuses années. Mais c'est pareil avec les orthophonistes, avec plein de professionnels de l'enfance qui vous disent que ces enfants ont des troubles de langage, ils ont du mal à tenir en place, ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à mémoriser une leçon. Alors, les écrans n'expliquent pas tout, évidemment. Il ne s'agit pas de jeter tous les écrans, mais ils jouent un rôle évident.
En partie, selon vous. Michel Desmurgés, dans quelques secondes, nous serons en ligne avec Amadou, qui est prof d'informatique au Sénégal, et je pense qu'il va réagir à ce que vous venez de dire, puisque lui se sert aussi des écrans avec ses classes. Mais juste avant ça, je voudrais lancer la balle à Jacques Brodeur. Vous qui êtes un ancien prof d'éducation physique, puisqu'on a parlé des répercussions des écrans sur les enfants, est-ce que vous arrivez à lier la surconsommation d'écran avec la prise de poids voire l'obésité chez certains enfants? Est-ce que vous arrivez à faire un lien aussi?
Ça a été prouvé depuis 2001, c'est connu publiquement. Toutes les campagnes pour combattre l'obésité, je suis étonné qu'ils ne tiennent pas compte de cette découverte formidable faite en Californie avec des enfants de 8 ans, à San José en Californie, par le docteur Thomas Robinson. Quand tu coupes les écrans, quand tu réduis le temps passé aux écrans, les élèves perdent de l'adiposité, c'est la couche de gras sous-cutanée, et deviennent moins vulnérables à l'apparition de l'embonpoint et de l'obésité. C'est merveilleux, ça marche. Je signale, pour revenir à l'appui de ce que Michel disait tout à l'heure concernant les apprentissages, j'ai des profs d'éducation physique et sport et en France, qui viennent me dire qu'en 6e et 5e, ils ne font plus faire de roulade aux élèves, la petite culbute toute simple sur des matelas de gymnastique. Ils ne font plus faire de roulade, les élèves se blessent. Les élèves se blessent en faisant des roulades. Mais, mes chers amis, ce n'est pas la motricité des enfants de 2-3 ans qui est affectée. Ce sont des ados de 11, 12, 13 ans à qui le prof doit être extrêmement prudent quand il leur fait faire un exercice. L'enfant peut se blesser et faire une chose tout à fait banale.
Avec nous, Amadou, au Sénégal. Bienvenue. Bonjour, Amadou. Vous êtes prof d'informatique.
Ben, bonjour Céline, je suis prof d'informatique à Bambé, à 120 km à l'est de Dakar, la capitale du Sénégal.
Merci beaucoup d'être avec nous au cœur de cette discussion. Alors vous-même, vous utilisez parfois les écrans avec vos élèves?
Oui, effectivement. Moi, je suis professeur d'informatique dans une école primaire, l'école Sainte-Croix de Bambé. Et là, j'utilise l'écran de projection pour projeter mes cours. En fait, qu'est-ce que je fais? Les enseignements que les enseignants font ici, par exemple, ordonner des chiffres ou bien des calculs mathématiques, là où les élèves comprennent un peu mieux cela avec le tableau noir, quand je fais un cours d'informatique, je conçois des jeux avec des logiciels comme Flash Professionnel ou bien Microsoft PowerPoint. Et quand j'expose les élèves ces jeux en mathématiques, en français, on se rend compte que les élèves sont beaucoup plus intéressés par la vivacité de l'écran de projection, et ils parviennent à faire les exercices mieux que leurs profs qui leur écrivent cela au niveau des tableaux noirs. Et les résultats se font sentir, parce qu'à chaque fois quand on fait des évaluations en informatique, eh bien, on a des résultats plus que satisfaisants.
Alors j'ai Jacques à dire Brodeur, à mon collègue...
Je vous laisse réagir.
Que si vous donnez les explications plus courtes dans ce que vous donnez vous-même comme cours, là, vous donnez les explications de 2 ou 3 minutes. Et à chaque 3 minutes, vous arrêtez et vous demandez aux élèves de choisir dans ce que vous venez d'expliquer une petite phrase ou quelques mots qu'ils trouvent plus important que le reste. Je vous prends le pari, mon cher ami, qu'au bout d'une heure, votre élève aura appris plus que tout ce que vous pouvez lui faire apparaître à l'écran. Parce que l'écran, il est utile quand c'est accompagné d'une partie, d'une contribution qui vient de l'enfant lui-même. C'est pour ça que son papier et son crayon sont la meilleure arme pour augmenter l'apprentissage de son cerveau. Ça a été tenté avec des étudiants d'université. On en a 500. Il y en a 250 qui prennent les notes avec le clavier. Il y en a 250 qui prennent les notes avec le papier et le crayon. Mais croyez-le ou non, mon cher ami, les élèves arrivés à l'examen, c'est des adultes, hein, c'est des jeunes adultes. La note est meilleure quand ils ont pris les notes avec le papier et le crayon. Il y a quand même quelque chose à tirer comme leçon de ça. Ça ne veut pas dire qu'on bannit l'utilisation de la tablette, mais ce qu'on dit, c'est que la tablette ne remplace pas l'apprentissage de l'utilisation de ton cerveau pour faire une sélection dans ce que le professeur vient d'expliquer.
En même temps, Amadou, vous êtes prof d'informatique, ce serait difficile de faire sans écran.
Mais en fait, pour les élèves à l'école primaire quand même, moi je dis qu'ils sont beaucoup plus attirés par l'activité des écrans. En fait, ce que vous avez dit, c'est parfaitement vrai lorsqu'il s'agit des étudiants en classe supérieure, mais avec les élèves à l'élémentaire, eh bien ça, c'est un fait marquant parce que j'enseigne l'informatique depuis 5-6 ans et je me rends compte qu'ils sont beaucoup plus passionnés par les calculs numériques que l'on fait avec l'écran de projection qu'avec le tableau noir. Le tableau noir, ça les ennuie. Vraiment, c'est ça. Et quand ils rentrent à la maison, ces mêmes élèves qui utilisent les ordinateurs de leur papa, eh bien, le résultat est beaucoup plus aussi satisfaisant. Donc, pour le supérieur, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, hein, là, c'est la vérité. Mais pour les élèves de l'école élémentaire, eh bien, c'est l'attractivité de l'écran qui les fait flipper à un degré de 0 degré Celsius. Voilà, exactement.
C'est justement ce flippage qui est épouvantable parce qu'il hypnotise le cerveau de l'enfant. L'enfant devient captif de l'image. Je vous mets au défi de l'essayer dans deux classes différentes, avec l'écran et sans écran, et je vous dis qu'une semaine plus tard, vous viendrez vérifier ce que les enfants ont retenu. Il faut que le cerveau fonctionne. Or, le cerveau, quand il assiste à une image à l'écran, il la consomme. Moi, je ne veux pas que votre élève il consomme l'écran, ni vous-même, mais je veux que son cerveau se mette en branle, en marche.
On aura du mal à vous mettre d'accord tous les deux. Par contre, vous avez pu échanger et nouer la discussion. Juste, Michel Desmurger, je voudrais juste qu'on progresse un tout petit peu sur ce rendez-vous.
Le point était intéressant parce que, si je peux me permettre juste deux secondes, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un décalage assez important entre le plaisir qu'on prend à une présentation et la mémorisation qu'on en fait. Il y a beaucoup d'études dans le système scolaire qui montrent qu'il y a notamment le One Laptop Per Child, je sais pas si vous avez entendu parler de ce programme où on a donné des ordinateurs
à des enfants qui n'en avaient pas.
Là, ça n'a pas été en France. Ça a été une étude qui est assez ancienne, qui a démarré chez nous. Maintenant, on commence à avoir assez de recul. Et il y a une étude qui vient de sortir, par exemple, en Catalogne. Mais il y en a eu au Pérou, il y en a eu en Éthiopie, il y en a eu un peu partout dans le monde où ce plan a été développé. Au début, on nous a dit que c'est extraordinaire et on s'aperçoit que les enfants qui ont eu des tablettes comparés et des ordinateurs comparés à ceux qui n'en ont pas eu ont vu leurs résultats scolaires chuter. Parce qu'encore une fois, qu'il faille leur apprendre un certain nombre de choses de l'informatique, qu'il faille leur apprendre à coder, qu'il faille leur apprendre comment est fait un ordinateur, personne ne le discute, qu'il faille leur apprendre à utiliser un traitement de texte. Au-delà de 6 ans, il n'y a aucun problème. Cela étant dit, quand vous leur mettez ces outils entre les mains, ils s'orientent vers ce que l'informatique peut avoir de plus délétère. Ils ne s'orientent pas vers les éléments positifs. C'est vraiment ce que montre très bien ce programme. Et d'autres programmes, One Laptop Per Child, où quand vous donnez des ordinateurs à des enfants ou des tablettes, ils ne s'orientent pas vers ce que ces outils pourraient leur apporter de positif. Ils s'orientent vers les fonctions les plus récréatives, qui sont effectivement les plus délétères pour le développement. Et les études PISA, qui sont des études de comparaison internationale du système scolaire, montre encore une fois, année après année, que plus les systèmes scolaires investissent dans la numérisation, plus ça se fait au détriment des enseignants et plus le résultat des enfants baisse. Il y a une chose qui prédit de façon extrêmement importante la qualité d'un système éducatif, c'est la qualité de ses enseignants. La formation et le recrutement, c'est le seul facteur qui vraiment est transnational au niveau de la qualité des systèmes éducatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur apprendre, encore une fois, un certain nombre de choses du numérique, comment utiliser le numérique, les écrans, comment c'est fait un ordinateur, comment on code, il n'y a pas de problème. Après, là où ça pose problème, c'est quand on va remplacer du temps d'enseignant pour les mathématiques, pour le français, par des logiciels, parce qu'effectivement, on a par exemple du mal à trouver des enseignants de mathématiques. Donc, évidemment, au bout d'un moment, quand on n'arrive plus à trouver d'enseignants de mathématiques, on vient nous expliquer que les écrans, c'est bien. C'est mieux que rien, mais c'est pas mieux qu'un bon prof. C'est même plutôt moins bien. Et ce que montrent ces études aussi, les dernières études notamment...
Et il nous reste 10 secondes.
C'est qu'un écran plus un enseignant qualifié, c'est à peu près la même chose qu'un enseignant qualifié. Un enseignant qualifié tout seul, ça explose n'importe quel programme informatique, mais la plus-value de l'écran, elle est marginale. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ses sous ailleurs, dans les enseignants, dans l'humain, dans l'aide aux gamins, je ne sais pas, plutôt que dans ces écrans-là?
La question est posée, et au vu des nombreuses incertitudes scientifiques actuelles, qui sont d'ailleurs contradictoires, le Haut Conseil de la Santé publique conclut au besoin de développer la recherche. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous pensez que le temps de la recherche est dépassé et que le temps de l'action est arrivé? Cette question, je la pose à Maryse Chrétien. En deux secondes. Est-ce que ce temps est révolu de la recherche?
Non, je ne pense pas que ce temps est révolu de la recherche. C'est très, très important. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec M. Desmurgeux. Je le trouve vraiment très radical. Et je crois qu'il faut qu'on acculture et qu'on fasse de la formation aussi pour les enseignants.
Très bien, je vous remercie Maryse Chrétien. Et tout de suite, l'Afrique qui gagne avec ce portrait de Godlieve Mukasarazi, fondatrice de l'ONG Sevota au Rwanda. Elle est assistante sociale de formation, militante pour les droits des femmes et des enfants. Elle se bat tous les jours pour l'épanouissement social et économique des personnes traumatisées par le génocide du Rwanda et elle œuvre depuis 25 ans à la réconciliation nationale. Au sein de Sevota, elle a mis en place une thérapie originale pour gérer leur traumatisme basée sur des ateliers de parole, de chant et de danse. En 2011, Godlieve Mukasarazi a reçu le prix international des droits de l'homme et en 2018, le prix international Women of Courage. Raphaël Constant l'a rencontré à Paris. On écoute.
Je suis grandie au milieu du Rar, dans une région, le secteur actuel s'appelle Rongi. Je suis fille des paysans et moi je suis la deuxième enfant de la famille de mes parents. J'ai étudié à l'école sociale à Outaré. Après, entre autres, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. C'est en 1980, ça fait longtemps.
Et votre mari était Tutsi?
Est-ce qu'actuellement, on parle des ethnies au Rwanda? On est tous Rwandais. Je pense qu'actuellement, le temps est arrivé qu'on parle surtout de la personne humaine, au lieu de parler des classes sociales.
Est-ce que vous vous souvenez du 7 avril 1994?
Oui, je me souviens du 7 avril 1994. Parce qu'à la radio, on a dit que l'avion du président Abdarimana avait eu des problèmes et que le président était mort.
Parce que ce jour du 7 avril 1994, tous les propriétaires d'une carte d'identité avec la mention Tutsi ont été tués.
Et c'est le 23 avril, où les miliciens sont venus, alors ils ont jeté une grenade sur notre maison. Ils l'ont détruit complètement. J'étais angoissée, j'étais triste de voir des gens s'entretuer, passer les nuits en brousse sous la pluie. C'était triste, c'était malheureux. Jusqu'à ce qu'au mois de juillet, le Front patriotique rwandais a gagné. Puis on n'avait rien et on était comme des personnes dans la rue. Je priais chaque fois pour demander à Dieu si jamais je pouvais survivre. Et tout d'un coup, l'esprit m'a interpellé à dire que je pouvais créer un service d'encadrement des veuves des orphelins. Et c'est comme ça, ce jour-là, dans l'église, j'ai eu le nom de ce votant. Si vous voulez dire à cette période, service d'encadrement des veuves des orphelins d'Ottawa. Et pour céder ces relations détruites, j'ai commencé par les femmes survivantes du génocide de tout genre. J'ai commencé avec les groupes des orphelins sans distinction aucune, en ayant à l'idée qu'entre enfants, ils pouvaient s'entraider pour reconquérir la paix manquée ou revivre le trauma malgré la situation qui s'était passée.
Donc si je comprends bien, l'idée c'est de réparer les survivants et de leur rendre justice. Et d'ailleurs, votre mari s'est engagé aussi à vos côtés. Comment ça s'est passé?
Quand j'ai commencé l'organisation Sevota, mon mari m'aidait surtout. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque comme témoin du tribunal international pour le Rwanda, il a été fusillé avec notre fille qui avait 12 ans et avec nos autres personnes. Pas les infiltrés, parce que c'était la période des infiltrés.
Et vous, comment vous avez surmonté ça?
J'ai tombé d'abord dans la colère. Mais quand on travaille avec les traumatisés, on obtient aussi une auto-guérison grâce aux personnes que tu es entrée d'aider. Et pour avoir la paix interne, il faut pardonner. Donc, j'ai pardonné aux personnes qui m'ont fait souffrir pour pouvoir continuer.
Et alors, justement, comment vous les aidez? Par quoi ça passe?
Le point commun de ces femmes, c'est que ces femmes étaient des veuves ou des orphelins. Il y a aussi les filles qui ont été violées à 14 ans, 16 ans. Et quand ils écoutaient l'autre, les doléances de l'autre, ça lui permettait d'être soulagé pour dire « Ah, toi aussi, toi avec le même problème !» D'abord, c'était les prières, mais petit à petit, ils reliaient, ils chantaient. Et puis aussi, j'avais introduit les chansons, les danses traditionnelles. J'avais introduit aussi une autre technique de détraumatisation, les tapping.
Taper par exemple sur les doigts ou sur le visage?
Oui, taper sur la main, taper sur le visage. Il y a 14 points essentiels pour taper. Avec ce système de tapping, ça permet aux personnes d'éviter l'angoisse, d'éviter la culpabilité, d'éviter la colère aussi, jeter la culpabilité, accueillir l'amour de tous et de soi. Et aussi, avec les femmes, nous avons pu lutter contre l'impunité, puisque les femmes de ce vote ont été allées pour les témoignages. Et après ces témoignages, avec l'appui des femmes du droit international, le viol a été reconnu comme crime contre l'humanité.
Et pour vous, l'Afrique qui gagne, c'est quoi?
L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui a la paix, et dont la population se développe, et là où il y a la démocratie, il y a aussi la paix, l'unité et la réconciliation.
Et vous me parlez de chant de la réconciliation. Est-ce que vous pourriez m'en chanter un?
C'est votre tu à la cause, c'est votre tu à la cause, va douer au fond de tout la mignon, non est tout la vagne mon mahoro, c'est votre tu à la cause. Kuka monya hi wa chuara koze, sevo taya chuara koze, bese ni muhanga wara koze, sevo taya chuara koze, momungororero wara koze, sevo taya chuara koze, dese ni kireho se wara koze, sevo taya chuara koze.
L'Afrique qui gagne. Juste avant, une discussion très animée, on peut le dire, autour des enfants exposés aux écrans. Je remercie nos invités, Jacques Brodeur, ancien prof d'éducation physique et créateur du défi 10 jours sans écran qui existe au Canada, mais aussi dans les écoles en France. Michel Desmurger, je remercie également les studios de Radio France à Lyon pour le duplex. Et Maryse Chrétien, vous avez une invitation à lancer sur notre
antenne. Moi, j'ai une invitation à lancer à Michel Desmurger et à Jacques Brodeur, c'est de venir participer au congrès national que notre association organise. Donc cette année, ce sera à Bressuire sur la thématique de l'imaginaire. Et vous verrez combien nous, les enseignants d'école maternelle, nous sommes très attentifs au développement de l'enfant.
C'est bon.
Vous serez là, Jacques Brodeur?
J'accepte immédiatement pour la créativité. Moi, je suis toujours partant.
Avec grand plaisir.
Je remercie également toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Alix L'Hospital, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Et demain, découvrez ou redécouvrez notre reportage sur la dot. C'était Céline Guillaume. Au revoir, à demain. RFI.fr